Bonjour à toutes et à tous. L'avant-dernière visite radiophonique de l'année. Et on se retrouve avec Bénédicte Bougnol du Pays d'Art et d'Histoire, membre des Lot en Gévaudan. Salut Béné.
Bonjour.
Et il était avec nous dans une dernière émission. C'est Xavier Mirmand, professeur d'histoire-géographie, également missionné au service éducatif du Pays d'Art et d'Histoire, membre des Lot en Gévaudan, qui est avec nous. Salut Xavier.
Et bonjour à tous.
C'était l'équipe, pour ceux qui s'en souviennent, de la visite radiophonique de Chasse-Radès. Cette fois-ci, on va aller où, Béné?
Alors, on va aller dans un village non loin de Mende. Alors, c'est vrai qu'on y passe souvent à côté, mais on s'y arrête pas souvent. Et pourtant, il mérite le détour.
C'était la même introduction que pour Badarou, on y retournerait?
Alors, on retourne pas à Badarou, mais tu vas voir que ce n'est pas un hasard.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.
Allez, donc je te confirme, Bénédicte, on ne s'est pas arrêté à Badarou, on est où?
Oui, on est un tout petit peu plus loin, on est à Pelouse. Et en fait, Pelouse est située à environ à 15 km de Mende. Et c'est la commune de Pelouse se trouve aux limites de la Margeride et de la vallée du Lot. Alors à Pelouse, aujourd'hui, il y a à peu près 240 habitants et qui sont répartis sur 7 villages et hameaux et aussi des lieux-dits. Alors on peut citer notamment Pelouse, Les Sals, La Rouvière, Aigas, La Baraque ou Esclancide. Et en plus, cette commune, elle est intéressante parce qu'elle possède un riche patrimoine bâti et un patrimoine naturel remarquable.
Et oui, on a déjà fait plusieurs visites aux alentours de Pelouse, alors Charpal et même l'église de la Rouvière. C'est bien sur la même commune?
Oui, c'est bien sur la même commune. Alors aujourd'hui, la commune, elle a la particularité de posséder deux églises, une à la Rouvière et une à Pelouse. Bon, alors si tu veux, Ludo, je vais t'expliquer parce que c'est un peu compliqué et aussi c'est une longue histoire. En fait, tout commence au Moyen-Âge. Les archives nous apprennent que le village principal était la Rouvière. Concernant la Rouvière, on a un texte qui date de 1123 et qui recense les possessions du chapitre cathédral de Mende. Et en fait, il y a une mention d'un prieuré et d'une église. Alors, on peut supposer que le village de la Rouvière s'est développé autour de ce prieuré. Par la suite, on sait qu'en 1364, l'église de la Rouvière devient église paroissiale. Toujours par la suite, après la Révolution, on crée la commune de La Rouvière et La Rouvière devient chef-lieu de commune. En 1841, c'est une date importante, la paroisse est scindée en deux. Une église modeste est construite à Pelouse et cette église sera dédiée à Saint-Pierre de Vérone. En 1889, une autre date clé, c'est la date du transfert du chef-lieu de La Rouvière à Pelouse. Le village de La Rouvière perd de l'importance alors que le village de Pelouse se développe. Alors, on peut penser que ce développement est dû notamment à l'accroissement de la population et cela correspondrait sans doute à la création de la route nationale qui relie Mende au Puy et cette route, elle est créée à la fin du 19e siècle. En 1889, la petite église de Pelouse est reconstruite et agrandie et elle devient paroissiale en 1890.
Alors là, on est juste devant et je remarque quand même qu'elle est différente de celle de la Rouvière, elle est très différente quand même.
Oui, elle est vraiment très différente, en fait, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été construites à la même époque, elles n'ont pas le même style. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a vu que l'église de la Rouvière, elle était construite au XIIe siècle et donc elle est de style roman. L'église de la Rouvière, c'est une église aux dimensions modestes qui suit un plan très simple avec une nef unique et un chevet à cinq pans. Et alors son architecture, elle est quelque peu massive avec des puissants contreforts. Et elle a presque en fait une allure fortifiée. Alors que l'église de Pelouse, elle est vraiment différente. C'est un édifice aux dimensions beaucoup plus importantes. Elle est plus grande, elle est plus haute. La façade, on est devant, elle est surmontée d'un clocher carré avec une lèche qui forme un porche. Tu la vois, cette flèche, elle est importante et très très haute. Et ensuite, on a un plan. En fait, l'église, elle suit un plan en croix latine qui se lie également à l'extérieur. Et l'ensemble de l'édifice, elle est soutenue par des contreforts. Et enfin, on peut voir de l'autre côté, hein, le chevet est polygonal. Il est ouvert avec de larges baies, un peu dans un style gothique.
Et lors de la reconstruction donc de l'église en 1888-89, on avait prévu, et c'est marqué donc dans les clauses du cahier des charges de 1888, que cette nouvelle église sera reconstruite à l'emplacement de l'ancienne église avec agrandissement vers l'est sur un rocher à démolir. Or, on voit, et on le voit devant nous, que ce rocher-là, il est encore là, ce qui fait qu'en fait, il n'a pas été démoli et finalement on a reconstruit l'église beaucoup plus à l'ouest, enfin un petit peu plus à l'ouest plutôt qu'à l'est. Et aujourd'hui sur ce rocher communal on peut voir le monument aux morts.
Et en l'observant de l'extérieur, elle me rappelle d'autres églises comme Badarou, le Chastel.
Et oui, tout à l'heure tu trouvais que ma présentation ressemblait à celle de Badarou et c'est là que je te dis c'est pas un hasard en fait, effectivement. L'église de Pelouse, elle est vraiment caractéristique des églises reconstruites au XIXe siècle par les architectes diocésains. Elle est de style néo-gothique. En fait, on cherche à reproduire la splendeur des cathédrales du Moyen-Âge. On va en reparler tout à l'heure, hein, je te propose de rentrer, mais effectivement, on va voir qu'elle ressemble beaucoup à celle de Badarou.
Alors, on voit bien qu'on est dans un village typique de la Margeride, quand même.
Oui, c'est vrai.
Allez, on va rentrer. On nous a ouvert là, gentiment les portes de l'église. Alors on est rentré, Béné, une petite église mignonne, tu peux nous la décrire ?
Oui, alors comme je te le disais à l'extérieur, l'église suit un plan en croix latine. Elle est composée d'une nef unique, de trois travées et d'une abside à cinq pans. Il y a deux chapelles latérales qui s'ouvrent sur la première travée et qui forment un transept. Et en fait, comme toutes ces églises du XIXe siècle, l'église est entièrement voûtée d'ogives. Et donc elle est mignonne, mais elle présente une grande sobriété dans son architecture et son ornementation. Et comme je te le disais, elle est caractéristique des églises reconstruites au XIXe siècle par les architectes diocésains. Et comme tu le disais à l'extérieur, elle ressemble vraiment aux églises de Badarou, du Chastel Nouvelle ou même encore de Bellevesée. Ce n'est pas un hasard.
Et du coup, on sait qui l'a dessinée ?
Alors oui. C'est le chanoine Laurent, qui est un personnage aux multiples facettes. Victor Onésime Quirin Laurent est né à Mende en 1842 et il va effectuer une carrière ecclésiastique assez brillante. D'abord, il est chanoine, donc il est curé à Saint-Chély-d'Apché. Il va devenir secrétaire de l'évêque de Monseigneur Coste. Ensuite, il est nommé vicaire général de Monseigneur Batifolier. Donc, il travaille auprès des évêques de Mende à la fin du XIXe siècle. Il est professeur au grand séminaire de Mende et il a une facette assez particulière. Il est architecte diocésain. Il est même surnommé dans les journaux et les archives de l'époque le bâtisseur d'église. Il est très productif. On lui doit la construction de nombreux édifices. Par exemple, le grand et le petit séminaire de Mende, le Carmel, toujours à Mende, ou encore l'église de Bellevesée et celle ici, donc, où on est à Pelouse, dont il a réalisé les plans et il assure la maîtrise d'ouvrage. Enfin, il est nommé en 1906 évêque de Cahors, dans le Lot, où il meurt en 1911.
Alors pourquoi on construit autant d'églises au XIXe siècle ?
Alors en fait, il faut comprendre... Pour le comprendre, il faut rappeler le contexte religieux au XIXe siècle en Lozère. On est donc après la Révolution. C'est une période qui est marquée par un nouvel élan religieux, qui conforte la foi traditionnelle. En Lozère, comme à Pelouse, dans les églises dans les années 1800-1850, le nombre de paroisses se multiplie. Le clergé a une très forte influence. On constate une grande ferveur des fidèles. Le nombre de vocations augmente de façon considérable. De nombreux missionnaires sont formés ici et partent évangéliser en France aux quatre coins du monde. On a une fièvre constructive. Les historiens dans les textes parlent de fièvre de construction.
Et du coup, Xavier, sur l'histoire de cette église en particulier ?
Alors, cette église, donc, on l'a dit, a été reconstruite en 1888-1889. Mais on peut d'abord s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on reconstruit et construit des églises au XIXe siècle. D'abord, l'état alarmant de nombre de bâtiments, l'outrage des ans qui passent, l'absence de réparation, les dégâts issus de la période révolutionnaire. Elles sont abandonnées, elles sont pillées, elles sont reconverties en granges ou en forges. Elles nécessitent donc des travaux considérables de remise en état. Ces travaux coûtent cher, les paroisses sont démunies et ne font face qu'à des restaurations insuffisantes. Les travaux sont médiocres et finalement, on envisage in fine la démolition et le remplacement par une construction neuve. D'autre part, les visites pastorales, donc effectuées par les évêques dans les paroisses, révèlent ces édifices en mauvais état. Enfin, l'exiguïté, c'est-à-dire que souvent ces édifices-là sont très petits. Et ces trois raisons-là, on les retrouve donc pour l'église de Pelouse. L'église du 19e siècle, qui avait été construite à la fin du 18e siècle et qui va durer donc jusqu'en 1888, elle est très petite, elle fait 50 mètres carrés, elle est en très mauvais état. Et l'évêque demande, donc, qui passe à Pelouse dans les années, au cours des années 1880, dit que ça va pas. Alors on a là, ce sont ces arguments qui servent à la reconstruction de l'église de Pelouse. Qui décide ? Eh bien, c'est le clergé, donc en premier lieu le desservant, avec donc le curé de Pelouse, qui s'appelait à l'époque l'abbé Gaillard, qui est enterré d'ailleurs au cimetière donc, de Pelouse, qui pose la question de la démolition de la vieille église et son remplacement par un édifice neuf. Alors, on a trouvé des documents du conseil de fabrique de la paroisse de Pelouse, du conseil municipal de la Rouvière de 1888, où justement, je cite, le conseil municipal prie de bien vouloir délibérer au sujet de la reconstruction et de l'agrandissement de l'église de Pelouse. Et après un sérieux examen, les membres du conseil considèrent que l'église actuelle est indigne du culte divin et qu'elle est insuffisante pour la population. Ainsi, il y a urgence à prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour reconstruire l'église et l'agrandir. Le plan est dressé donc par l'abbé Laurent en 1888, il est approuvé par le conseil municipal le 14 avril 1889 et par le conseil de préfecture le 15 avril 1889. À partir de là, ça va très vite, puisque les travaux d'adjudication sont passés le 6 mai 1889. Alors on a la chance pour la paroisse et la commune de Pelouse d'avoir énormément, que ce soit aux archives départementales, aux archives diocésaines ou ici dans les archives municipales, on a le cahier des charges, on a l'avant-mettrée, on a le devis descriptif et estimatif des travaux, on a la récapitulation, et toutes ces archives nous permettent d'avoir une connaissance assez précise, autant par le matériel que par le coût donc de ces travaux de reconstruction de l'église de Pelouse.
Et c'est pas toujours le cas de ne pas avoir tous ces documents ?
Non, parce qu'en fait, la préfecture demande à brûler en 1887, et ce qui fait que beaucoup d'archives qui devraient être aux archives départementales ont disparu. Et donc c'est beaucoup plus facile de travailler sur des églises qui ont été reconstruites après l'incendie de la préfecture que de travailler sur des églises qui ont été reconstruites avant, par exemple l'église de Badaroux ou du Chastel. On a beaucoup moins d'archives disponibles. L'église est finie, donc en 1890, après il faut la meubler, Bénédicte en parlera, et finalement Monseigneur Batifolier vient ici à Pelouse le 18 octobre 1892 pour bénir l'église.
Du coup, Béné, qu'est-ce qu'on peut dire du mobilier qu'il y a ici dans cette église ?
Oui, alors l'église de Pelouse, elle a quand même un ensemble mobilier qui est très homogène et encore une fois très caractéristique de ces édifices du 19e siècle qui sont construits dans un style néo-gothique. Alors là où elle est intéressante, c'est que notamment, tu peux voir, on est face au maître-autel. Et ce type de maître-autel en marbre blanc, comme ça, on le retrouve dans de nombreuses églises du 19e siècle. Mais celle de Pelouse, elle a la particularité d'avoir la signature, en fait, de la marbrerie qui a réalisé cet autel. Et donc, cet autel provient de la grande marbrerie artistique Bossan et Bouvas. Ce sont des sculpteurs à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Et on sait, notamment dans les textes qu'a étudié Xavier, que cette grande marbrerie va fournir donc tous les autels de l'église. Cette marbrerie a fourni aussi le chemin de croix. Alors le chemin de croix, il n'est pas en marbre, il est en bois sculpté. Il y a un autre élément qui est en marbre, ce sont les fonts baptismaux qui sont dans le porche d'entrée.
Du coup, Xavier, le coût définitif, c'est combien ?
Alors le coût sans le mobilier, selon le décompte général des travaux de construction de l'église paroissiale de Pelouse, qu'on peut retrouver donc aux archives municipales ici, en date de 1891, du 10 février 1891, le coût de la reconstruction de l'église de Pelouse s'élève à 25 625 francs 66 centimes.
D'accord, ce qui pour l'époque était pas mal et pour aujourd'hui est donné.
Ce qui pour l'époque, en fait, ce qui est surprenant pour Pelouse, c'est qu'ils arrivent à tout payer, sur les fonds de la section de pelouse. Et alors c'est assez surprenant, alors que d'autres communes à côté, on peut penser à Bellevesée, où il y a des surcoûts, ils n'arrivent pas à payer, il faut faire des emprunts en plus. Ici à Pelouse, ils arrivent à payer avec l'argent qu'ils ont reçu de l'expropriation due au reboisement, et notamment dans les parties vers Charpal.
Béné, qu'est-ce qu'on peut dire sur les vitraux ?
Alors bah, oui, on peut continuer à regarder le décor de cette église. Alors on peut dire un mot sur les vitraux, hein, qui représentent en fait des thèmes assez caractéristiques à nouveau du 19e siècle. Dans le chœur notamment, on a des représentations du Bon Pasteur, de Saint-Pierre ou de Saint-Privat, hein, qui était l'un des plus grands patrons du diocèse. Et dans le chœur, on a des représentations de Saint-Antoine de Padoue et de Notre-Dame de Lourdes.
Au niveau des statues ?
Alors au niveau des statues, d'ailleurs, je vais inviter nos auditeurs à nous fournir des informations s'ils en possèdent, puisque l'église de Pelouse, en fait, a la chance d'avoir une Vierge à l'enfant qui date du XVIIIe siècle. Elle est présentée ici dans une cage en verre, hein, pour être protégée. Et cette Vierge à l'enfant est très intéressante. Elle est en bois peint doré, mais on n'a pas d'informations. Elle est visiblement plus ancienne que le reste du mobilier de l'église. On peut peut-être imaginer qu'elle était dans l'ancienne chapelle. Et voilà, et donc cette statue, hein, de la Vierge à l'enfant du XVIIIe siècle tranche avec le reste du décor, en fait, puisque les autres statues sont vraiment caractéristiques à nouveau de ce style du XIXe siècle. Et même, on peut appeler ce style le style Saint-Sulpicien. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est des sculptures, des statues, du mobilier et du décor qu'on peut retrouver presque dans de nombreux édifices du XIXe siècle, puisqu'en fait, c'était un mobilier qu'on pouvait choisir sur catalogue. Il est qualifié de style Sulpicien ou Saint-Sulpicien parce qu'il fait référence à la place Saint-Sulpice à Paris, où on pouvait trouver de nombreux marchands qui vendaient ce style d'objets d'art. Et en fait, ce style Saint-Sulpicien, en fait, ce sont des œuvres qui sont fabriquées en série. En fait, elles sont souvent produites dans des manufactures avec des procédés quasi industriels. Et donc, elles sont très répandues dans les églises du XIXe siècle. Voilà. Et ces œuvres Saint-Sulpiciennes, elles sont très appréciées en fait par les fidèles et les ecclésiastiques. C'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup dans les églises, parce qu'en fait, on aime bien leur qualité de représentation. En fait, ces œuvres, elles représentent souvent des représentations touchantes, hein, qui expriment des sentiments de douceur et de paix. En fait, dans ces statues, hein, qu'on peut voir ici dans l'église de Pelouse, on peut voir que les visages, en fait, ne représentent pas du tout la douleur, mais vraiment plus la paix. Elles ont pour but, en fait, de susciter la dévotion et d'inviter le fidèle au recueillement et à la prière. Ça se voit très clairement dans ici ces représentations de Notre-Dame de Lourdes, où la Vierge a un visage très doux et très apaisé.
Et tu peux nous dire un mot sur le Sacré-Cœur, et d'ailleurs ça a un lien avec la dernière émission sur l'évêché.
Oui, on est devant ici une représentation du Sacré-Cœur. Ça a un lien avec la chapelle de l'évêché, hein, une des dernières visites radiophoniques. Puisque cette chapelle de l'évêché était placée sous le vocable du Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur, c'est vraiment une représentation que l'on retrouve beaucoup à la fin du XIXe siècle. On peut également rappeler le Sacré-Cœur à Montmartre, hein, cette basilique sur la butte, qui est placée elle aussi sous le vocable du Sacré-Cœur.
Du coup, on l'a bien compris dans cette émission, une église du XIXe siècle. C'est la seule, Xavier, qui est construite à ce moment-là ?
Alors non, sur les dernières années du 19e siècle, sur la seconde moitié du 19e siècle, il y a énormément d'églises qui sont construites. La Lozère est touchée, hein, par cette fièvre de construction. On peut citer par exemple Darroux, on peut citer le Chastel-Nouvel à la fin de la décennie 1870. À la même époque que celle de Pelouse, on construit à Bagnols-les-Bains, on reconstruit à Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès. Il y a aussi l'église de Bellevesée à la toute fin du siècle. Donc je peux citer aussi le Falisson, les Lobies, la chapelle de l'évêché, on en a parlé, le Mas d'Orcière, le Blémar, Cubière, l'Ermitage Saint-Privat, Planchamp, Villefort, la Bastide. Ces églises en fait, du 19e siècle sont partout. Elles sont partout présentes et toujours méconnues.
On a oublié, mais on peut parler de l'Aubert, qui a un style très différent et pourtant qui est une église du 19e siècle.
1825, l'Aubert. Ouais.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une actualité ici, Xavier ?
Il y a quelques jours, il y a eu un rassemblement de randonneurs à Pelouse pour inaugurer un nouveau chemin de randonnée, le PR28 d'Ile, le chemin de randonnée de la Tailladis, qui traverse donc la commune de Pelouse et qui passe juste à côté du dolmen de Pelouse.
Voilà qu'on vous invite à venir découvrir. Xavier, pour finir, une anecdote pour Briller en Société sur cette émission, sur cette église de pelouse.
Alors, une petite anecdote. À Pelouse, donc, on a eu un divorce manqué. Justement, la même année que la construction de l'église, donc en 1889, c'est aussi l'année où le chef-lieu communal est transféré de La Rouvière à Pelouse. Bénédicte en a parlé. Le village de Pelouse a gagné en population tout au cours du 19e siècle. Il est bordé par la nationale, alors que La Rouvière, du coup, ne perd pas d'habitants, mais du coup, se fait dépasser par Pelouse. Donc, on a un transfert de la centralité communale. Ça ne plaît évidemment pas à la section de La Rouvière. Et on assiste dans les délibérations du conseil municipal. On assiste à une véritable guerre entre les conseillers municipaux de Pelouse et ceux de La Rouvière. Ceux de La Rouvière demandent instamment au préfet d'intervenir pour créer une nouvelle commune, donc pour faire une scission au sein de la nouvelle commune de Pelouse. Et après plusieurs débats, plusieurs engueulades dans les délibérations municipales, finalement le préfet refuse la scission entre La Rouvière et Pelouse. Pelouse donc reste l'unique chef-lieu de cette commune. Qu'on connaît aujourd'hui.
Voilà, une guerre de clochers.
Une guerre de clochers, typique.
Merci Xavier.
De rien.
Bénédicte, on va aller où le mois prochain ?
Alors, la prochaine visite, hein, c'est celle de décembre. Tu sais que c'est notre traditionnelle visite de fin d'année et qu'elle est un peu spéciale. Hein, il va y avoir des surprises. Alors, je laisse un peu planer le mystère, mais ce que je peux te dire, c'est que tu vas mettre la main à la pâte.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot-en-Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.